Bonjour, bienvenue aux rencontres d'Hélios, la nouvelle émission des patients de l'hôpital de jour de la clinique de Saint-Brie. Pour notre première émission, nous vous proposons d'aller à la rencontre du collectif Nous Payons la Loire, qui s'est créé à partir d'une initiative citoyenne afin de prendre soin collectivement du fleuve. Au départ, il s'agissait de Blaisois, résidents du centre-ville, qui, individuellement, lors de leur promenade au bord du fleuve, ramassaient les déchets qu'ils trouvaient. C'est en avril 2022 que s'est constitué ce collectif qui désormais se réunit un dimanche par mois. Allons leur rencontre.
Donc on est avec Claire Racineau qui est responsable du collectif Nettoyons la Loire. Donc Claire, est-ce que tu peux nous dire comment est née l'initiative de ce collectif ?
Bien sûr, alors moi je suis arrivée à Blois il y a 2 ans et demi. Je venais de Paris, comme plein de Parisiens qui ont eu envie après le Covid d'habiter dans un cadre plus agréable, où la vie était plus douce et plus tranquille qu'en région parisienne. Et j'ai choisi Blois aussi, ça faisait partie des critères pour les bords de Loire. Et j'étais persuadée qu'il y avait un collectif de ramasseurs, ramasseuses qui existait déjà. Et j'ai fait le tour des structures, j'ai contacté l'Observatoire de Loire, le Musée d'Histoire Naturelle, la ville évidemment. Et en fait, à chaque fois, on m'a renvoyé sur un des rassemblements, des ramassages ponctuels, mais pas sur un groupe qui existait avec pour but de ramasser régulièrement. Donc j'ai été un peu frustrée que ça n'existe pas, parce qu'en gros, ce qu'on me proposait, c'était d'attendre des mois et des mois, que ce soit le cleaning day ou que ce soit le gros événement des journées citoyennes ou quelque chose comme ça. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, puisque le groupe n'existe pas et que je savais par ailleurs qu'il y en avait un à Orléans et un à Saint-Nazaire, donc que c'était possible, un groupe de citoyens qui se retrouvaient tous les mois pour ramasser ensemble. À partir de là, je me suis dit, bon, puisqu'il n'y en a pas, créons-le, rassemblons les bonnes volontés. Donc là, j'avais fait un peu d'illustration, donc j'avais fait un dessin tout simple que j'ai collé dans une dizaine de lieux à Blois, chez les commerçants qui voulaient bien. Appel à volontaires pour des ramassages de déchets réguliers en bord de Loire. Me contacter, j'avais créé une adresse mail sur Mailo et c'est parti de là. Quelques personnes m'ont contacté, on a calé un premier rendez-vous, c'était en avril 2022 et depuis ça ne s'est pas arrêté.
Et si j'ai bien compris, tu quittes Paris pour venir à Blois, mais par quelle loi ?
Alors il y avait beaucoup d'autres critères dans mon choix de venir à Blois, mais la Loire en était vraiment un.
Je peux te demander pourquoi ?
Parce que j'ai grandi une partie de mon enfance en région parisienne et l'autre à Orléans, où la Loire passait. Ouais. Et moi, au moment où je décide de partir de Paris, je suis intermittente du spectacle, donc je me déplace pas pour un travail. C'est très arbitraire de choisir un nouveau lieu de vie. Je suis pas quelqu'un, donc faut que ce soit moi avec mes critères qui décide. Et en y réfléchissant, je me disais, le monde est vaste, comment je resserre, et le fait quand même de pas emménager n'importe où, mais d'avoir cette Loire que j'avais connue petite et de la retrouver à Blois, sans emménager non plus à Orléans que je connaissais, dont j'avais un peu fait le tour. Je voulais du changement, mais je voulais au moins une espèce d'attache ou de repère, et la Loire s'est présentée comme ça en fait.
Ah ouais, intéressant.
Que ça aurait pu être en taille de ville, j'avais pensé au Mans, j'avais pensé à Poitiers, mais là j'avais vraiment zéro connexion, ouais. Zéro lien, alors que les paysages du bord de Loire je connaissais un petit peu.
Et il y avait d'autres critères,
ouais. T'as parlé d'autres critères. La taille de la ville, la beauté de la ville. J'avais super envie, pour avoir vécu à Paris 15 ans, en banlieue parisienne beaucoup, qui est toujours en chantier, en construction, c'est bruyant, il y a des travaux. J'avais envie de pouvoir me promener, d'avoir mon quotidien dans une ville où ce soit beau, une ville qui soit jolie à regarder, une ville où il y ait du patrimoine, où je puisse m'extasier sur une église, un château. Donc il y avait ce critère-là quand même d'une ville qui soit belle, la taille, je l'ai dit, la vie culturelle. parce que je travaille dans le secteur culturel, donc c'était important pour moi de retrouver quand même un minimum de terrain où il pouvait se passer des choses. Et comme on sent, enfin, on sent le passage de Jacques Lang qui a impulsé plein de trucs. Un truc aussi, c'était le fait qu'il y avait une fondation du doute, que je me disais, ces pages blanches, je choisis une ville où vivre, c'est complètement un saut dans le vide, et je trouvais ça drôle, comme j'avais plein de doutes de le faire dans une ville où il y avait une fondation du doute, mais pas seulement une maison de la magie, une maison de la BD, les rendez-vous de l'histoire, enfin quand même des choses qu'on retrouve pas forcément dans toutes les villes, ça c'était important. Je cherchais des cours d'arabe, j'en ai trouvé à la maison de Bégon. J'ai fait le marché de Blois, place Louis XII, qui a été un coup de cœur aussi parce que il y a autant du fromage du coin que du couscous et du rougail saucisse. Donc j'avais l'impression que pour une petite ville, il y avait quand même une richesse culturelle, sociale, patrimoniale qui m'a vachement plu. Donc j'ai fait un week-end d'immersion et je me suis dit banco, Blois.
Donc t'as eu envie de protéger la Loire.
Ouais. Ouais. Alors ça, comment c'est venu tout simplement parce que la Loire c'est vachement beau. Que je suis arrivée en plein Covid, comme je vous le disais, et que je connaissais personne. Donc je faisais énormément de balades en bord de Loire. Et j'étais horrifique de constater les déchets. Alors il y avait beaucoup de masques à l'époque, mais sur le promontoire où on se retrouve là tous les mois, c'est une espèce d'aire de pique-nique officieuse, donc c'est très chouette, mais en fait il y a énormément de déchets, et je me disais, mais comment en centre-ville, là sous notre nez, il peut y avoir autant de déchets? Et je trouvais ça fou, à l'heure où la Loire est reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'heure où quand même on a une conscience écologique qui est plus aiguisée qu'il y a quelques années, je me dis comment c'est possible. Et il y avait ce truc de se balader et de se rendre compte que les déchets étaient à portée de main, et je trouvais ça juste trop bizarre de passer à côté sans rien en faire, en attendant que le vent les emporte dans l'eau et qu'ils se soient bouffés par les poissons et que ça vienne composer les nids des ronds cendrés, quoi. Il y avait un truc un peu absurde.
Et du coup, on peut peut-être en profiter pour... Ouais. Tu as parlé de ce promontoire où on se rassemble.
Ouais.
On va faire un petit peu de pub.
Ouais, faisons de la pub. On n'est jamais assez nombreux.
Où est-ce qu'il est situé, ce promontoire, exactement?
Il est au pied de... Enfin, en bas de la rue du Commerce, en centre-ville. À l'endroit, j'ai appris que c'était un endroit où il y avait un ancien pont qui traversait, pont qui s'est écoulé, qui a été bombardé, je sais plus. Donc le pont Jacques Gabriel a été reconstruit à côté. Mais nous, on se retrouve sur ce promontoire qui est en bas de la rue du Commerce, un peu à droite, mais c'est très facile de nous trouver quand le rendez-vous est...
Rive droite.
Rive droite.
Et du coup, à quelle fréquence?
Une fois par mois. Et on est pour l'instant à un rythme d'un dimanche par mois. Ouais.
À quelle heure?
À quelle heure, voilà.
À 10h30.
10h30. Et ça dure?
Ça dure 1h30. On se répartit par binôme, trinôme. On part avec des pinces à déchets, des sacs poubelles qui nous sont mis à disposition par la ville. Et là, on se répartit sur les bords de Loire. Donc ça peut être rive droite et rive gauche selon le nombre qu'on est. Et on essaye de ramasser le plus de déchets possible en 1h30. Et après, ça c'est aussi le grand plaisir de Nettoyons la Loire. Enfin, moi, j'adore ce moment où on se rassemble à la fin de l'heure et demie de ramassage. On trie nos déchets, on remplit la benne mise à disposition par la ville. Et ensuite, on va se faire un petit café chez Swan quand on est rive droite, qui nous accueille toujours à bras ouverts.
Vous dites que c'est la première fois que vous le faites. Comment avez-vous connu ce collectif ?
Via Instagram.
Instagram. Okay. Et pourquoi vous êtes là ?
Qu'est-ce qui vous anime ? On n'habite pas très loin, on profite de la Loire régulièrement et c'est important de la préserver. Et puis, ça, quitte à sortir, autant que ça serve à quelque chose. Okay. Plutôt qu'une balade lambda, on va dire, autant la mettre à contribution.
C'est quelque chose que vous faites en dehors du collectif? Je sais que les gens sont amenés quand ils se baladent à eux-mêmes ramasser, nettoyer.
Non, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Après, des fois, c'est vrai que On se promène parfois en vélo et ça nous arrive de nous arrêter pour ramasser des choses quand c'est assez évident, mais pas de manière... On ne part pas expressément pour ça.
Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres investissements dans des actions écologiques ?
Non, pas vraiment. pas dans des collectifs ou autres.
D'accord. Mais l'écologie, c'est quelque chose qui
est oui, important pour vous ? Oui, on essaie de faire attention dans sa vie de tous les jours à certaines choses qu'on peut faire, mais
d'accord.
Pas d'engagement pour le moment, en tout cas.
On parle beaucoup du phénomène d'éco-anxiété. C'est un terme qui me pose des questions, qui m'interroge un peu sur ce phénomène-là. On en parle beaucoup. Vous en pensez quoi, vous, de ça ?
Je pense que ça me touche, ça touche ma compagne aussi, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on voit un peu de tout, et c'est vrai que comment ça se matérialise, c'est que des fois, je préfère pas en entendre parler que,
ouais.
Plutôt que pour me protéger, entre guillemets, pour pas que ça me travaille ou que ça me crée de l'anxiété, je préfère, c'est bête, hein, mais être un peu dans sa bulle et puis... faire ce qu'on peut, mais voilà, c'est comme je vous disais, pas forcément d'engagement, je m'implique pas énormément non plus, etc. Après, dans ma vie de tous les jours, je fais attention, mais donc c'est vrai que ouais, moi ça me parle parce que c'est dès qu'on entend parler de quelque chose, c'est vrai que des fois on se demande où on va, c'est sûr, tout ça. Donc, ouais.
Et alors, certains sont amenés à dire que justement, participer à des actions concrètes pour l'environnement, pour l'écologie, pour le climat, permet de lutter contre ce phénomène d'éco-anxiété.
Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça d'un point de vue presque égoïste.
Ouais.
C'est aussi se dire, j'essaie de faire ma part.
Ou altruiste.
Oui, bien sûr. Non, mais ça a une finalité altruiste, mais je veux dire, peut-être que ça me soulage aussi
ouais,
personnellement de me dire, j'essaie de faire ce que je peux.
Okay.
Je suis pas parfait comme personne,
okay.
Mais j'essaie de faire ce que je peux et voilà, ramasser les déchets, ça contribue peut-être à compenser certains loisirs que j'ai qui sont pas complètement verts ou autres. Je sais pas, il n'y a pas de parfait échange, mais je me disais que ça contribue peut-être inconsciemment à soulager un peu.
Ok.
C'est-à-dire qu'on aide, quoi.
Alors, je sais que c'est la première fois que vous le faites. Moi, je l'ai fait déjà une fois. La dernière question, quand on se rassemble, c'est l'objet le plus insolite. Alors, vous avez peut-être pas rencontré encore aujourd'hui d'objet le plus insolite, mais la question se posera. Et est-ce que vous avez vu quelque chose d'insolite ou qu'est-ce que vous avez ramassé ce matin
si ouais, pour le moment, pas grand-chose d'insolite, ça me paraît pas insolite. Il y a énormément de bouteilles en verre. Il y a quelques canettes, pareil, c'est des boissons alcoolisées ou autres. Après, il y a plein de petits papiers, tickets de stationnement et autres. Il y a pas mal de petits emballages plastiques transparents, qu'on a un peu de mal à voir d'ailleurs, et qui, à mon avis... sont là aussi pour ça parce qu'on les voit pas et parfois on les perd ou autre et puis bon il y a des gens qui sont pas précautionneux mais c'est surtout ça je trouve des petits plastiques, des petits papiers et puis pas mal de bouteilles malheureusement c'est fréquenté parfois pour boire ou autre.
Vous comptez revenir sur ce collectif ?
Oui, après c'est des questions de contraintes personnelles des fois ça fait quelque temps qu'on avait vu les annonces mais on n'était pas là les autres week-ends, etc. Donc,
okay.
C'est vrai que là, on était là, donc c'était la bonne occasion.
Bon, merci pour votre temps.
Vous.
Merci.
Du coup, il y a combien de personnes, à peu près, qui fréquentent le collectif ?
Alors, le tout premier rendez-vous, en avril 2022, on était 8, je crois. On a été jusqu'à 50. Ça, c'est notre record incontesté et jamais dépassé encore, mais ça viendra peut-être.
C'était quand ?
C'était après, il y avait eu un article de la Nouvelle République qui nous avait fait une belle pub. Je dirais que c'était mars cette année.
Ah ouais, alors les conditions météo n'étaient pas les meilleures ?
Non, je pense qu'il y avait...
La communication qui...
Ouais. Il y avait eu... Studio Zef nous avait fait un podcast dans La Chose Commune, on avait eu une émission, il y avait eu un article de la Nouvelle République qui est quand même très lu. Et plein de gens avaient fait circuler l'info. Donc à ce moment-là, on était 50, c'était vraiment impressionnant. Je me souviens, il y avait des manifestations à l'époque, c'était les périodes manifs. Et j'étais arrivée en bord de Loire en me disant, mais tiens, pourquoi il y a autant de monde? Est-ce qu'il y a une manif aujourd'hui, le dimanche? On manifestait plutôt en semaine à l'appel des syndicats. Donc j'étais super étonnée. Et en fait, tout le monde venait pour Nettoyons la Loire. Donc c'était un beau moment. Et je dirais qu'en moyenne, on 25 maintenant. Avec un fichier de... Bah, sur Facebook, il y a 250 personnes qui nous suivent. Il y a près de 70 personnes qui reçoivent les infos par mail. Donc on est bien suivis.
Donc peut-être tu peux expliquer, vous êtes sur Facebook, sur Instagram. Donc c'est
ouais.
Nettoyons la Loire pour trouver le...
Ouais, alors on a trois moyens de communiquer au moins. Si j'enlève juste le bouche à oreille. Le tout premier qui est à l'origine, comme je vous le disais, c'est une adresse mail. Parce qu'il y a des gens qui sont pas sur les réseaux sociaux, et je comprends, donc qui aiment bien avoir le mail dans lequel on annonce les prochaines dates. Deuxième solution, Facebook, la page est accessible, qu'on ait un compte ou pas. Et troisième solution, Instagram.
D'accord, et là il y a une prochaine date déjà fixée ?
Non, on cherche pour août, moi je serai pas là, donc on regarde si quelqu'un peut prendre le relais. On n'a pas les prochaines dates, il faut qu'on les cadre.
D'accord, donc on invite les gens à regarder...
Voilà, à nous suivre, à se renseigner, l'info est accessible par mail ou par les réseaux.
On donnera peut-être l'adresse mail.
Oui, en fin d'émission.
Ouais. Ouais.
On sera d'y penser.
Donc ouais. La mairie de Blois, est-ce qu'elle soutient la démarche du coup ?
Complètement, alors ils nous prêtent les pinces à déchets. Donc comme on est nombreux maintenant, à chaque ramassage on a 30 pinces mises à disposition. Et en fait le truc très positif quand même, c'est qu'au départ, quand on a démarré, on empruntait les pinces à déchets des personnes qui travaillent à la ville pour ramasser les déchets dans le cœur de ville. Donc c'était une logistique, moi il fallait que je ramène les pinces très tôt pour qu'ils puissent les récupérer, etc. Et là, ils se sont rendus compte que comme on était solide et qu'on se retrouvait vraiment régulièrement, et que par ailleurs, ils ont d'autres demandes d'établissements scolaires, d'associations, d'entreprises pour des ramassages ponctuels, ils ont investi. Donc maintenant, il y a une réserve de 30 pinces qui est toujours à la ville au service démocratie locale et qui sert vraiment les initiatives citoyennes. Et d'ailleurs, chacun, chacune, nous on existe en tant que collectif avec ce rendez-vous mensuel, mais n'importe qui voudrait lancer un ramassage, qui est instituteur, institutrice par exemple avec ses élèves, ou qui travaille dans une entreprise, qui a envie de faire ça sur le temps du midi avec ses collègues, tout le monde peut emprunter ses pinces là, donc il ne faut pas hésiter. Donc on a les pinces de la ville, on a des sacs poubelles, qu'on essaye d'utiliser de plus en plus parcimonieusement pour pas générer trop de plastique. Donc maintenant on arrive à en récupérer pas mal en fin de collecte. Et puis on a éventuellement des gants s'il y a besoin. Et surtout la benne de la ville qui est installée sur le fameux promontoire où on se retrouve et qui permet de jeter les déchets à la fin sans envahir les poubelles de ville.
Et d'ailleurs, on est là, pendant qu'on parle, on est rassemblés au Libertaire, New Wilson, café culturel bien connu. Et avant qu'on s'installe, j'avais prévenu la patronne de l'établissement qui m'a dit, bah, si vous avez besoin, moi je récupère des seaux en plastique, qui sont des seaux de crème à l'origine. Ouais. Du restaurant de la pizzeria de l'avenue Wilson,
ouais.
Qu'elle pourrait mettre à disposition. Je lui disais que les sacs plastiques pour avoir faire un peu de nettoyage de bord de Loire avec vous, c'est vrai qu'ils sont grands,
ouais.
Parce que c'est pas forcément très très pratique de
tout
mettre
à fait.
Dans ce grand
ouais.
Sac.
Et
donc, je le dis parce que c'était une proposition qui tiendra dans le temps.
Carrément, bah, avec plaisir, parce qu'en plus on ramasse beaucoup de verre, et bah, verre brisé ça vient vite couper les sacs, donc les seaux ça nous intéresse. Ouais. Et c'est l'autre chose, ça me permet de faire une transition vers un truc que je trouve assez incroyable aussi avec ce collectif. C'est vraiment l'intelligence collective justement, où chacune amène ses idées. Donc on se dit comme ça, ramasser des déchets, on ne peut pas réinventer l'eau tiède à chaque fois. Mais pourtant, il y a toujours, à chaque ramassage, quelqu'un... quelqu'une qui est venue avec une bonne idée. Donc une fois c'est Max qui est venu avec sa perche à fruits pour attraper ce qui était loin dans la Loire. Patrick, il avait bricolé une petite carriole à vélo pour aller plus vite et plus loin sur les chemins et pouvoir ramener des déchets avec son vélo un peu plus vite qu'à pied. Il y a une jeune femme dont j'ai oublié le prénom, elle qui se forme dans la protection de l'environnement. Et elle est venue avec une tenue de pêcheur qui permet d'aller super loin dans l'eau. Donc c'est un
Nina.
C'est Lina, non,
Nina.
Nina. Ah oui, c'est Nina. Ouais, c'est Nina. Et grâce à la tenue de Nina, c'est un jour où on a pu extraire plein de lingettes de la vase en allant assez loin dans la Loire. Donc voilà, chacune ajoute sa petite pierre et je trouve ça vraiment, vraiment chouette.
Tu parles, ouais, de lingettes, tu veux faire un tout petit...
Oh, on peut évoquer tout à fait ce formidable objet de notre civilisation. Ouais, alors les lingettes, on en ramasse vraiment une quantité astronomique, et ce qui est vraiment tragique, parce que c'est le mot, c'est qu'il faut savoir que la lingette, c'est un support qui est pourri de produits, donc même celles pour bébés, même les démaquillantes, je parle pas que des lingettes qui servent à faire le ménage, c'est vraiment pourri de saleté, et la matière lingette ne se dégrade pas. Quoi qu'on en dise, même les lingettes biodégradables, elles vont se dégrader, mais je crois qu'il leur faut en moyenne 99 jours. Et le problème qu'on a avec ces lingettes, c'est qu'énormément de gens en achètent, déjà ça c'est une chose, mais admettons, mais surtout les jettent dans les toilettes. Et en fait, ça a tendance à boucher les canalisations. Les stations de traitement des eaux ont des pannes très très régulières à cause de ces lingettes qui bouchent leurs machines. Donc ça a un coût social et environnemental énorme, sans parler du coût sanitaire aussi, puisque c'est pas bon non plus pour la santé. Et dans la Loire, on en retrouve beaucoup, donc celles qui sont jetées dans les toilettes en partie là, se retrouvent dans la Loire, et évidemment qu'elles font un dégât pas possible dans la Loire. Donc on les retrouve, Julie t'en a ramassé un certain nombre, on les retrouve dans des états de décomposition plus ou moins avancés, et ça, bah, avec le temps, ça devient une espèce de matière plastique qui déchire et qui devient presque partie intégrante de la Loire, du sable, des algues, on ne sait même plus où est la lingette, où est le végétal, et c'est un vrai problème. Donc faudrait arrêter de les utiliser complètement, dans le meilleur des cas, et surtout ne pas les jeter dans les toilettes.
Alors, comment avez-vous découvert le collectif ?
Par un article dans la Nouvelle République il y a quelques mois. Même si c'est une goutte d'eau parmi des vagues. Et puis pour rencontrer des gens très sympathiques, ça fait pas longtemps que j'habite à Blois.
D'accord. À quelle fréquence vous venez ?
Tous les mois. Pratiquement tous les mois.
Ok. Et dernière question, quel est l'objet le plus insolite que vous ayez ramassé ?
Moi, c'est rien d'insolite. C'est des trucs classiques, les bouteilles, les lingettes, les canettes. Voilà. Moi, j'ai rien trouvé d'insolite.
D'accord. Merci. Et justement, quel est l'objet le plus fréquent qui est ramassé ?
Les mégots. Les mégots, c'est une vraie catastrophe. J'y pense aussi parce qu'un des derniers ramassages qu'on a fait, là, c'était au port de la Creusine. Vous étiez là, donc post-festivité du 14 juillet, post-festivité de la guinguette. Et c'était désespérant. La quantité, moi j'ai eu l'impression, j'exagère évidemment, mais qu'il y avait un mégot, un brin d'herbe, un mégot, un brin d'herbe, et qu'on en avait laissé plein, même si on avait fait le maximum pour en ramasser le plus possible. Donc le mégot, qui est traître en plus parce que ça nous prend beaucoup de temps à ramasser et c'est tout petit, donc on n'a même pas la gratification que ça remplisse les sacs de déchets. Donc ouais, je dirais le mégot, puis je sais plus quelle quantité d'eau il faut pour fabriquer ou détruire un mégot.
C'est énorme.
C'est énorme et ça met 3 ans.
Et c'est surtout mondial, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur toute la planète, la quantité de mégots. Il y a des gens qui intentent des procès aux fabricants de cigarettes parce qu'ils devraient dans le registre pollueur-payeur, quoi.
Ouais.
Après, on parle de dimanche dernier, mais d'autres personnes qui disent aussi que ce serait bien que ces lieux de vie un peu festifs s'équipent aussi.
Ouais.
Hein, de, je sais pas, de
cendrier,
portable, sur les tables,
ouais.
Portable, sur pied, un peu partout.
Ouais.
Et puis qu'on diffuse un peu plus les cendriers de poche.
Ouais. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi une histoire de sensibilisation parce que pour moi, j'entends le côté pas prêt. pratique, s'il n'y a pas de poubelle, pas de cendrier à proximité. Ouais. Pour moi, ça ne justifie pas le fait d'aller jeter son mégot dans la nature. Surtout avec les sécheresses, hein, c'est absurde. Et je me dis, donc oui, bien sûr, pour rendre des cendriers plus accessibles, parce que c'est quand même sûrement un des facteurs qui fait qu'on en trouve autant, mais aussi, je pense que les gens ne sont pas forcément informés des dégâts que ça cause, des dangers que ça représente pour l'environnement, et d'aller en parler et de discuter, parce que nous, on a cette sensibilité-là, on est au courant. Je pense qu'il y a des gens qui passent à travers les mailles de l'info ou que ça n'intéresse pas et qui ne se rendent pas compte vraiment de toutes les conséquences. Donc ouais, je dirais mégots, je dirais beaucoup aussi de canettes et de bouteilles, d'emballages de nourriture, de gâteaux, beaucoup de plastique.
De lingettes,
dans tous les états possibles et imaginables. Ouais, c'est principalement ça, et après de temps en temps, on s'amuse là. Depuis quelques collectes à référencer les objets un peu insolites qu'on peut trouver.
C'était ma prochaine question.
Voilà, bah parfait.
Alors, comment as-tu découvert le collectif ?
J'ai découvert par une affiche à la ressourcerie des bonnes manières en Blois.
Depuis combien de temps tu participes ?
C'est ma deuxième fois.
Et pourquoi ?
Parce que moi régulièrement je fais des marches autour du lac de la Passanière et donc je vois beaucoup de déchets et là je me suis dit que ça peut être encore plus monstrueux. Puis quand est-ce qu'on y trouve les lingettes, les rats, les canettes et c'est l'horreur.
Ok, et quel est l'objet le plus insolite que tu as ramassé ?
Des barrières...
Des barrières de sécurité.
Ouais, voilà, barrières de sécurité.
Ok, merci beaucoup.
Est-ce que vous pensez vous réimpliquer à nouveau sur ce collectif ? Participer encore ?
Alors, oui,
oui, moi je continue régulièrement. Parce que de toute façon, même si on fait très peu qu'on y passe une heure, c'est toujours mieux que ce qu'on en fait avant d'arriver.
D'accord.
Et on dit aussi, enfin certaines personnes disent que justement pour lutter contre ce phénomène d'éco-anxiété qu'ils ressentent, l'action permet, permet d'être moins anxieux.
Même si c'est rien par rapport à là, on est resté là une heure à peu près là-bas. On a ramassé deux seaux de 5 kg de lingettes. Il y en a 10 fois plus à ramasser.
Ouais.
Mais ce sera toujours ça en moins. Et la prochaine fois, ça sera, on va revenir au même endroit et on va enlever la même quantité.
D'accord.
Mais au moins, on dit que c'est ça qui est en moins.
Ouais.
Mais bon, même si c'est désespérant.
Ok.
Quel objet le plus insolite que tu as ramassé ?
Un billet de 10 euros. C'était assez chouette, parce que je me dis quand même, donc a permis, alors c'est pas moi directement, mais c'est Maxime, un des piliers du collectif, et on a pu se payer un café après, et je me disais franchement, vu l'énergie qu'on passe dans ces ramassages, sachant qu'on est les derniers achetés à polluer, c'est sympa cette idée qu'on soit récompensé d'une certaine manière. Donc 10 euros c'était chouette, en plus étonnant et rigolo, on a déjà ramassé... une balle de golf, un pinceau, des barrières de chantier, là, les barrières Vauban, ça c'était pas mal, qui étaient vraiment dans la Loire, un cadre de mobilette, un cadre de vélo, des vêtements, des couches pour bébé pleine. Ouais, la collection commence à être pas mal là.
Ok, et tu as une estimation de la quantité de déchets qui est ramassée à chaque fois ou...
Non. Je fais pas très attention, mais on pourrait parce que la benne, elle peut être pesée par les services de l'asile, mais comme on fait le tri, ce serait pas représentatif. S'il fallait arrêter un truc, je dirais, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vu que vous participez souvent, mais... Ouais non j'arrive pas, je sais pas, des centaines de canettes. Hein. Ouais. Ouais.
Je sais pas combien ça pèse, des centaines
ouais.
de canettes.
Non moi non plus. C'est du, je j'arrive pas à estimer. Parce qu'en plus comme on en jette un peu dans les poubelles de tri, un peu dans la benne. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'un peu précis
Ça pourrait peut-être être intéressant d'évoluer sur ce
ouais.
registre-là.
Ouais.
Je sais que c'est quelque chose, vous travaillez beaucoup à la ressourcerie, Julie, mais il y a beaucoup de pesée. La ressourcerie, elle pèse tout ce qui rentre, tout ce qui sort.
C'est vrai.
Et il faudrait, quand on est sur un
plan de dynamique écologique, ça nous permet d'avoir une mesure des choses.
Ouais.
Parce que si on va aller un peu plus loin, justement, cette question de mesurer, de prendre conscience d'un chiffre, ça aide à mesurer, à prendre conscience. Quand tout à l'heure, toi et moi, on n'arrivait pas à se souvenir de cette info qui est pourtant connue, en poids, le poids des mégots laissés dans la nature chaque jour matin, on le sait, on a des statistiques, mais on les perd, ces chiffres qui nous... Ouais. Me dépasse. Après, pour le collectif, ça pourrait être intéressant de se munir d'une... que la ville investisse aussi, et se munisse d'une balance.
Mmh. Ouais, tout à fait, tu as complètement raison. Bah, quand tu parlais d'intelligence collective et des idées, c'est vrai qu'on chiffre... On chiffre combien on est, parce que sur le plan humain, c'est hyper chouette de voir qu'à chaque fois, on a un peu plus, ou qu'en tout cas, il y a un noyau dur et qu'à chaque fois, il y a des nouveaux. Donc, on est très attentif à ça. Moins aux déchets, mais vous avez complètement raison, la quantité, elle compte. Et d'autant plus que, par exemple, moi, je m'imaginais, jusqu'à il y a peu, qu'il y avait toujours moins de déchets aujourd'hui que ce qu'il y avait pu y avoir il y a 5 ou 10 ans. Et en fait, on a été invité à une réunion organisée par la ville de Blois autour de cette question des déchets.
Okay.
Donc l'idée, c'était de réunir les différents services concernés par cette question, les associations, les collectifs comme nous qui se mobilisent. Et j'ai été très surprise d'apprendre à cette occasion qu'on n'a jamais eu autant de déchets qu'aujourd'hui. Parce que pendant le Covid, nos pratiques de consommation ont changé. Il y a beaucoup plus d'emballages, on se fait livrer énormément de choses, on mange beaucoup plus à emporter, et que tout ça fait qu'en fait on a plus de déchets. Alors que moi dans ma tête, je me disais, bah maintenant qu'on est très au courant des questions écolo et que c'est dans notre tête et c'est présent dans tous les JT, dans toutes les infos qu'on peut lire, enfin, en tout cas j'ai l'impression, je pensais qu'on était tous dans cet effort et cette vigilance collective de produire moins de déchets, mais en fait pas du tout. Et quantifier, c'est aussi, ça permet de ne pas se fourvoyer comme ça, et puis de savoir où on en est, quoi. Ouais. Donc ouais, t'as raison. Mmh. Ce podcast me permet de prendre conscience qu'il faut qu'on pèse les déchets. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est toujours très impressionnant. Et moi, je me souviens du matin où on était 50 et où je me suis dit, le ramassage, il va être fait en une heure, on n'aura plus rien à ramasser. Mais en fait, pas du tout, parce que... Plus on est nombreux, plus on va loin, plus on se répartit, plus on est attentif à aller chercher les bouts de lingettes embêtants à ramasser ou les petits mégots qui traînent. Et en fait, plus on est, plus on ramasse de choses. Mais voilà, c'est énorme.
Est-ce que vous êtes là depuis le lancement de cette initiative collective ?
Je suis là depuis le mois d'octobre l'année dernière, en fait.
Depuis le mois d'octobre. Comment vous avez connu ce collectif ?
C'est parce que je fais partie d'une association, pardon, qui fait que l'animatrice a mis un prospectus et moi j'ai dit oui. Bon, il n'y a qu'une fois où j'ai loupé parce que je partais en week-end ce week-end-là, mais sinon j'essaie d'être là à chaque fois.
Donc tous les mois, parce que la fréquence c'est une fois par mois ?
Oui, c'est ça.
D'accord, vous êtes déjà venu quand il y avait des intempéries, de la pluie ?
Ah au mois d'octobre c'était la pluie, au mois de novembre c'était le brouillard, on voyait même pas le pont François Mitterrand.
D'accord.
Et après je me souviens plus des intempéries qu'il fait.
Vous vous rappelez avoir eu froid ?
Ah oui.
Oui.
Oui, cet hiver, oui.
D'accord.
J'étais couverte jusqu'au cou.
Et alors pourquoi vous vous impliquez dans un collectif tel que Nettoyons les bords de Loire ?
Parce qu'on est un bon collectif déjà. Et puis je me dis que moi je suis fumeuse. Et au début, que je fumais, je balançais mes gouttes de cigarettes partout et maintenant je m'en fous.
D'accord. Okay. Pour réparer un peu ?
Un peu, ouais.
Un petit peu.
Ouais.
C'est un peu collectif, ça, on est tous un peu responsables d'avoir fait ça.
Ouais.
Et... D'accord. Okay. Ce travail avec ce collectif, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts que celui écologique purement ?
Oui, moi, la personne avec qui je travaille en binôme, maintenant, on se met, quand on se retrouve, on se met ensemble.
D'accord, ok. On lit des connaissances. Alors.
Oui, on fait des connaissances, d'accord. Super sympa.
Okay. Et sinon, vous avez une vraie sensibilité à l'écologie en général ?
Pas spécialement.
Pas spécialement ?
Non.
Vous n'avez pas d'autres implications dans d'autres collectifs ou dans
non.
D'autres...
Non.
Ok. Bon, et merci. Et bon nettoyage des bords de Loire.
Merci. Moi, je suis Madame Cendrier parce que je ramasse quand je vois un mégot comme il y a derrière le jeune homme là, je les ramasse.
Ok.
Parce que ça m'agace.
Merci.
Bah de rien.
Et du coup, est-ce que tu as des pistes pour lutter contre ces déchets sauvages? Éduquer les gens, ça n'a pas l'air de bien marcher visiblement.
Bah, j'ai l'impression qu'on fait pas beaucoup d'efforts non plus. En fait, je me rends compte, mais ça sur toutes les questions écologiques, quand même on part beaucoup du principe que les gens sont au courant, que les gens sont concernés, que les gens ont à cœur de protéger la planète. Et je crois pas tant que ça en fait. Même là, l'année dernière, on a vécu la sécheresse. On se rend bien compte autour de la Méditerranée, c'est catastrophique. Il y a des sécheresses jamais connues, des incendies très graves. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on ne responsabilise pas les gens par rapport à leurs actes et à leurs choix. Et moi, j'adorerais pouvoir faire des ateliers partout pour aller parler de nos modes de consommation. Je suis scandalisée de voir, alors c'est super, depuis cette année à Blois on a des poubelles jaunes pour faire le tri. Bon bah génial, mais en fait faudrait carrément ne plus avoir de déchets. C'est pas la question de les recycler, de mieux les trier. Certes, c'est absurde d'aller jeter un déchet dans la nature, mais ça l'est tout autant d'aller produire énormément de déchets et de remplir une fois par semaine son énorme poubelle et qu'elle déborde de déchets, ça va pas non plus. Et ça, c'est les maillons d'une même chaîne. Et j'entends beaucoup quand on ramasse, les gens qui font ça, c'est scandaleux. Et je suis super d'accord, c'est scandaleux d'aller jeter un déchet dans la nature près des canards, entre les canards et les hérons cendrés. Mais pour autant, nous, ce qu'on fait chez nous, qu'on a l'impression d'être un peu plus clean parce qu'on met nos déchets à la poubelle, c'est mieux, mais c'est pas non plus génial. Et j'ai l'impression que sur la sensibilisation, la pédagogie autour du vrac, de pourquoi pas manger suremballé, de pourquoi c'est mieux d'aller dans certaines enseignes ou au marché que dans d'autres, il faudrait. Moi j'ai un voisin qui va chez Leclerc Drive, tout ce qu'il reçoit c'est suremballé, ça va pas quoi. Ça lui passe complètement au-dessus, puis comme il jette pas son plastique directement dans la nature, il a pas l'impression que c'est grave, mais en fait ça l'est aussi. Donc je pense que la pédagogie et la sensibilisation, on n'en fait pas du tout assez, que c'est quand même la clé. Et de multiplier les initiatives comme ça aussi. J'ai l'impression qu'on attend beaucoup que ça vienne des autres. Et moi, un des déclics que j'ai eu aussi en démarrant ce collectif, c'était une sociologue qui s'appelle Joëlle Zask, qui a écrit un livre sur la question de la démocratie et de l'écologie. Et elle disait, on pense que la démocratie, c'est déléguer à un président, déléguer à un gouvernement le pouvoir, et ils font les meilleurs choix pour nous. Et en fait, elle disait, c'est pas ça. La démocratie, c'est exercer notre responsabilité de citoyen, de citoyenne sur le monde. Donc d'être capable, s'il y a quelque chose à faire, de le faire et de pas attendre forcément de l'institution, de l'administration, de s'en occuper, mais de faire sa part, quoi. Et je pense que Nettoyons la Loire, comme je vous disais, c'est 10 affiches, une adresse mail et on est 50 à se réunir. Et je me dis qu'à tous les endroits, il y a des choses comme ça à faire, et que plus on fait des actions où on est responsable et on est content de ce qu'on fait et on a l'impression d'avoir changé quelque chose, plus on a envie d'en faire, et c'est un cercle vertueux. Mais ça veut dire ça veut dire que les gens prennent leur pouvoir, prennent leurs responsabilités, et là-dessus il y a un chemin pédagogique énorme.
Pourtant, on parle aussi beaucoup d'éco-anxiété en ce moment. On peut penser aussi que cette éco-anxiété, elle favorise des phénomènes d'inertie ou d'avoir le sentiment de résignation, qu'on ne peut rien y faire, que la planète brûle, et de toute manière, c'est inéluctable. C'est contradictoire avec ce que tu viens de dire.
L'immobilisme des gens, tu veux dire ?
Oui.
Alors clairement, je pense que c'est très confortable de se dire de toute façon ça nous dépasse, donc moi je continue à prendre l'avion 10 fois par an, je mange de la viande 2 fois par jour et j'achète plein d'emballages, et puis peu importe si je jette mes déchets dans la nature. Je pense que de dire de toute façon on va dans le mur, ça entretient ce comportement-là. Et que c'est très confortable. C'est beaucoup plus confortable de dire ça que de dire ah, faut que je change mes habitudes. Donc faut que je voyage autrement, faut que je consomme autrement, faut que je me déplace autrement. Donc ça il me semble que c'est un peu voilà, c'est une histoire de confort, on veut pas trop bouger, donc se dire que de toute manière c'est cuit, ça, voilà, ça nous conforte dans des comportements qui sont éco-cibles, on va dire. Et l'autre truc que je vois, c'est aussi qu'évidemment la seule façon de... Enfin, moi j'ai lu hein, des livres, je pense à Comment être écolo sans finir dépressif ou d'autres sur l'éco-anxiété. La conclusion c'est toujours que le meilleur moyen pour lutter contre son anxiété c'est quand même de passer à l'action et de se sentir utile et d'agir à l'endroit où on est. J'ai pas trouvé d'autre réponse que ça. Et de se mettre en collectif et de se réunir avec des gens qui ont les mêmes préoccupations pour pas être isolé avec ce stress-là et cette angoisse de l'avenir.
C'est un peu ce qu'on s'était dit.
Oui, justement.
De recherche un peu sur l'éco-anxiété, oui, oui. Dans ce sens-là, mais comme c'est un peu parfois un peu partagé, puis qu'il y a des gens qui perdent véritablement confiance, qui ont véritablement peur, enfin, je ne remets pas non plus en cause. On a eu l'occasion aussi d'aller rencontrer la recyclerie de Paris, le restaurant...
Ah oui, dans le 18e.
Dans le 18e. Ouais. Le fondateur de ce restaurant raconte qu'il a fait, il dit exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, c'est pour sortir d'un phénomène d'éco-anxiété qui s'est dit, il faut que je passe à l'acte. Mmh. Et concrètement, alors l'acte est grand, il faut aller visiter la recyclerie de Paris, mais le restaurant est fondé très différemment de plein de choses qu'on connaissait jusque-là. Et ça lui a permis vraiment de sortir de ce marasme un peu dans lequel il était plongé au travers de la peur qu'il avait de cette évolution sociétale.
Ouais. Oui, c'est que ça rend créatif en fait.
Ça.
Et moi je préfère mille fois vivre ma vie en... des fois c'est vrai, et ça m'a fait un peu ça dimanche dernier quand on s'est retrouvés de ramasser un énième mégot et de me dire je fume pas, c'est pas moi qui les jette par terre, on est dimanche matin... je serais bien aller faire une rando ou traîner au lit plutôt que d'être là à ramasser les déchets des autres. Ça m'a vraiment traversé. C'est une remarque que j'entends beaucoup. Les gens qu'on croise nous disent c'est super ce que vous faites, ou alors de toute façon ça sert à rien. Et c'est vrai que moi j'ai eu un moment de découragement comme ça avec les mégots en me disant c'est vrai, à quoi ça sert. Et en même temps, ça passe vite parce que c'est aussi tellement joyeux de se retrouver autour d'un objectif commun, de rencontrer des gens. C'est aussi ce que j'aime dans ce collectif. On le disait tout à l'heure, il y a des gens de tous les âges, de tous les milieux socio-professionnels. Chacun vient avec ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, ses capacités physiques, ses envies, le temps qu'il a. Et en fait, rares sont les endroits, je trouve, où on croise du monde indépendamment de notre classe sociale, de l'endroit où on habite, du métier qu'on fait. Nettoyons la Loire, ça permet ça. De faire se rencontrer. Les discussions d'un café à l'hôtel s'approfondissent, il y a des relations qui se créent. Et je pense que si on ne se rencontrait pas autour de cette initiative, on ne se serait pas rencontrés par ailleurs. Donc ça a aussi un côté... très créatif et très joyeux de rentrer comme ça dans des actions militantes.
Ouais. Et puis une société moins en silo.
Complètement. Mais toi, est-ce que tu constates des différences dans les générations par rapport à l'éco-anxiété notamment? Est-ce qu'il y a plus d'investissement des jeunes? Parce que nous, on a fait une marche pour le climat par exemple, où il y avait énormément de jeunes qui étaient très motivés, mais aussi des personnes plus âgées. Toi, tu vois une différence ou pas?
On parle beaucoup d'un phénomène en ce moment qui s'appelle qu'on appelle l'éco-anxiété. Ça nous questionne tous, ce phénomène-là. Est-ce que vous sentez, vous, éco-anxieuse, par exemple?
Je pense que, justement, être dans l'action, ça évite de trop broyer du noir. Je pense qu'on peut un peu tout faire l'écolibri et du coup... c'était un petit peu ça, notamment on en parle beaucoup sur les jeunes générations, et du coup c'est pour ça que je trouvais que c'était important de faire ça avec une ado, avec ma fille, parce que justement ça permet de montrer que voilà, faut pas avoir, penser que tout est noir, on peut aussi faire des choses. Après je sais pas si c'est éco-anxieuse. Est-ce que l'écologie ça prend anxieuse ou...
Ça le fait plus, ça permet de l'être moins anxieux. Alors, vous êtes collégienne, vous?
Oui.
On en parle un peu, on fait des actions au collège par rapport à l'écologie, au climat.
Pas beaucoup. Après, parfois aussi, on peut s'inscrire pour faire un peu des rassemblements et en parler, poser des questions avec les éco-délégués.
Vous avez des éco-délégués. En quoi consiste leur rôle, s'il vous plaît, à ces éco-délégués? Qu'est-ce qu'ils font?
Ils étudient ensemble et ils trouvent des idées pour améliorer le collège côté écologie et ils aident les familles.
Produire moins de déchets, oui. Au self, des choses comme
oui,
ça. Prendre la bonne quantité de nourriture pour moins de déchets.
Bah là, par exemple, on trie tous les déchets quand on n'a pas fini au plat.
D'accord.
Donc voilà, c'est rassurant aussi.
Et c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant ça?
Non, avant j'étais tout dans la poubelle.
Ça, tout partait. D'accord. Et vous savez ce qu'on en fait, ce tri, qu'est-ce que ça devient?
Bah, c'est trié. Par exemple, après je sais pas parce que je sais pas ce qu'ils font, mais il y a des choses qui vont au compost, il y en a qui vont recycler et tout.
Oui, c'est ça. Le compost, aujourd'hui, vous savez qu'en 2024, ça va devenir obligatoire, les composts dans la ville, et on va traiter aussi ça, tous les résidus alimentaires.
Après, ce qu'ils ont besoin en tant que collégien, c'est d'être sûr que les adultes ils suivent derrière et que leur action, ce ne soit pas du flanc et qu'il y ait bien un compost derrière et tout, ce qui n'a pas forcément été le cas au début de l'année scolaire du collège. Là, donc voilà, je pense que justement, quand c'est des enfants qui disent « mais là, nous on fait cette action, vous allez derrière suivre avec votre compost », ça a plus de poids que quand c'est des parents qui le disent ou des choses comme ça.
Ouais.
Donc ça, c'était intéressant, je trouve.
Est-ce que vous pensez revenir une fois par mois, je crois que c'est la fréquence. Est-ce que vous pensez revenir une prochaine fois?
Oui.
Ouais.
Selon les disponibilités, parce que moi je travaille 3 week-ends sur 4, mais quand ça tombera bien, on se dit qu'on viendra.
Okay.
C'est agréable. Et en plus, on a vu plein d'oiseaux, tout ça ici, donc on voit tout de suite pourquoi on le fait.
Ouais.
C'est très agréable aussi d'être en bord de Loire.
C'est ça, c'est un beau site, c'est la balade aussi. C'est pas que difficile et éprouvant.
Non.
Hein.
Non, non.
Super. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses. Bonne journée.
Merci.
C'est une vraie question. On oppose beaucoup, on parle beaucoup de génération climat et on oppose beaucoup les jeunes inquiets et éco-anxieux et les vieux boomers qui ont cramé la planète. Moi je trouve que c'est quand même plus compliqué que ça, et encore une fois, Nettoyons la Loire, on est le reflet, il y a des gens de tous les âges, et autant il y a des jeunes de cette génération climat qu'on voit surconsommer, être à fond sur les réseaux, et pas être justement dans le soin de l'environnement et du vivant, comme on voit des personnes beaucoup plus âgées très très préoccupées. Il y a une dame, Jocelyne, qui fait partie du collectif aussi, qui est super, elle a pas loin de 80 ans. Elle est venue plusieurs fois en disant que cette Loire, elle avait l'impression de l'avoir toujours connue et que ça la rendait triste de l'avoir dans cet état. Donc je parlerai pas, enfin moi je trouve que le côté d'opposer les générations, non on le vit tous maintenant en 2023 avec cette réalité là, et j'ai une amie qui dit plutôt que génération climat, on est dans une époque climat en fait, et ça nous touche tous, ça nous concerne toutes et tous, et la question de l'âge n'est pas forcément pertinente il me semble, mais même si effectivement il y a beaucoup de jeunes, mais dans Nettoyons la Loire j'ai l'impression que c'est tous les âges.
Un peu ça, un peu mixé.
Ouais. On pourrait demander l'âge des gens en plus de peser les déchets.
Faire des diagrammes.
Ouais, c'est ça, des camemberts.
Je pensais dans les collèges où ils ont créé ces éco-délégués.
Ah oui, tout à fait.
Ah oui, on peut peut-être finir par savoir si Claire connaît la définition de ce mot.
Voilà, en faisant des recherches, on a découvert le mot solastalgie.
que j'ai déjà entendu ça. C'est la nostalgie de... Qu'est-ce que c'est la solastalgie?
Vous pouvez bah, peut-être nous dire un peu.
Alors, ça vient de Solas, qui est un néologisme de Boris Vian. Donc dans sa phrase, des chats allongés sur des crêtes de murs ou des rebords de fenêtres se solassaient indolemment. Donc c'est-à-dire ce, l'attentisme, le prélassement, l'indifférence. Et donc algie, donc algos, c'est la souffrance en grec, la douleur engendrée par la souffrance du prélassement. Donc. C'est-à-dire se tourner les pouces alors qu'il faudrait faire quelque chose. Qu'il faudrait s'engager. Donc,
C'est un peu le résultat de l'éco-anxiété quand on quand on n'arrive plus à rien faire.
Ça paralyse quoi.
Ça paralyse.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Ouais, je comprends. Je comprends et ça me fait penser à deux choses. Je pense que on parlait de comment faire changer les comportements et tout ça. Moi, je crois vachement dans le. Ça, ça paraît plan-plan ce que je vais dire, mais dans l'éducation et dans le changement par les enfants. Et je me dis que eux, ils ont un bon sens que nous, adultes, on a peut-être perdu. Et je suis sûre que si on les associe à ce genre d'action, si on les sensibilisait, par la racine, par les enfants, il se passerait plein de choses. Et il me semble, tout à l'heure, tu demandais ce qu'on pouvait faire. Mmh. Il me semble que ça aussi, ce serait une clé. Parce que moi, je me souviens, par exemple, gamine, à l'école, ils avaient introduit le tri des déchets. J'étais rentrée chez moi en disant à mes parents « Ah, mais il faut trier les déchets, on nous a appris ça à l'école. » Et en fait, bah, ça a marché. Je trouverais ça très intéressant de s'intéresser aux enfants sans leur mettre la charge lourde qu'on entend des fois sur le dos de CAE de sauver la planète. Non, évidemment pas. Mais en tout cas, au moins pour le côté éduquer les parents qui ont besoin de l'être, pour justement sortir du prélassement dans lesquels ils se sont parfois un peu installés. Et puis aussi, bah, parce que c'est quand même eux qui vont habiter dans ce monde plus tard et leur montrer qu'ils peuvent agir, c'est vachement puissant en fait. Plus petit on te dit t'as ton rôle à jouer dans le monde, plus après tu le prends quoi, tu prends ta place. Voilà.
J'en ai pas vu beaucoup des enfants dans le...
De temps en temps, là, il y avait Gloria et Maëlys, la dernière fois, c'est un peu... C'est pas très... Enfin, il y a quelques familles, mais c'est pas la majorité.
On a interviewé une maman avec une ado, c'est elle qui parlait d'ailleurs, elle était éco-déléguée.
Ouais, super. Elle s'appelait comment, tu te rappelles? Ouais.
C'était à la manif pour le climat.
Ok.
Non.
Non.
Je pense que moi, je l'ai interviewé au nettoyant des bords.
Ah, ok.
Ouais.
Ah oui, je crois que j'ai vu, ouais, quand on l'avant-dernière fois, quand on l'a
ouais,
fait...
Ouais.
Et sur la sensibilisation, pardon, mais j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure, il y a un moment, par exemple, j'ai l'impression que de nous voir en action aussi, c'est hyper efficace, parce qu'il y a énormément de gens qui nous voient faire.
Ah oui.
Donc des gens qui...
Visibilité.
Ouais. Et qu'on soit visible, sans de longs discours forcément, mais juste qu'on nous voit faire... il y a des gens que ça touche beaucoup et je me souviens d'un monsieur qui était en bord de Loire avec ses copains à boire l'apéro qui était à Blois vraiment ponctuellement pour installer des fibres chez les gens je sais pas quoi, et ils étaient entre collègues à se boire un coup en bord de Loire et ils nous ont vu faire, ils nous regardaient, ils sont venus me voir en me disant mais là vous ramassez les déchets des autres, là vous êtes vraiment en train de ramasser les poubelles que les gens laissent. On se dit bah oui, c'est pour que la Loire elle soit plus propre, comme ça vous appréciez d'être là, nous on apprécie d'être là, ça pollue pas. Et puis il a cherché ses mots pendant hyper longtemps, au bout d'un moment il m'a dit, il est d'origine tunisienne, donc il cherchait ses mots aussi en français. Puis au bout d'un moment il me dit, mais ce que vous faites c'est gentil, voilà, c'est super gentil ce que vous faites. Et il a pris une pince et il a fait tout le reste du ramassage avec nous. Et puis voilà, ses collègues nous ont applaudi, enfin, c'était chouette. Et je me dis, juste peut-être des fois aussi, dépasser le débat, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas, est-ce qu'on est anxieux ou pas, mais juste le faire et montrer que c'est possible, moi je trouve que c'est vachement important.
Je me rappelle d'une chose que tu avais dite à France 3 quand ils étaient venus t'interviewer.
Ah oui,
tu avais dit, mais ce qu'on ramasse là au bord de la Loire, ça finit pas dans la mer.
Ouais. c'est ça de moi.
Ouais, nous, on travaille à nos pieds, mais finalement, le monde, ça peut nous paraître toujours un peu lointain, mais clairement, l'eau, elle emmène. Hein,
complètement.
Et les lingettes, peut-être qu'elles se retrouvent
Tout à fait. Le journaliste m'avait demandé, de manière un peu provocante, il m'avait dit, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous videz la mer avec une cuillère? Donc, sous-entendu, ça sert à rien. C'est ça, et en fait, ça m'avait un peu désarçonné sa question, puis je m'étais dit, mais non, mais il me parle de mer, et j'avais en souvenir le fait qu'il y a 80% des déchets qu'on retrouve dans les océans et les mers qui viennent des fleuves. Donc en fait, agir en amont, et ben c'est quand même récupérer tout un tas de déchets qui vont pas alimenter le continent plastique dans l'océan, ou qui seront pas bouffés par les tortues, ou... Alors voilà, c'est pas magique, ça compensera évidemment jamais tout ce qui est mis par ailleurs, mais en tout cas c'est ça de moins et je trouve ça super important. Et si notre collectif il peut donner l'idée à d'autres collectifs de se créer ailleurs et que sur la Loire il y ait plus que Orléans, Blois et Saint-Nazaire qui se mobilisent, mais tout plein de collectifs en cours de route, ça ferait une Loire propre et c'est quand même, ce serait formidable. Donc oyez, s'il y a des habitants ligériens ailleurs, on est prêt à partager notre expérience. Mais je trouve ça très beau de voir la simplicité avec laquelle ça se met en place. Faut le faire ailleurs.
Et donc s'il y a des gens qui souhaitent rejoindre le collectif, qu'est-ce que tu conseilles comme équipement à apporter ?
À l'équipement, alors évidemment, ça c'est un grand plaisir aussi, c'est qu'on passe quand même une matinée 2-3 heures en extérieur. Et ça c'est quelque chose qu'on a perdu, on est beaucoup dans les bureaux, on est beaucoup devant notre ordi, devant nos écrans, et je trouve que pour ça aussi c'est hyper agréable, mais soyons à voir, c'est qu'on est de nouveau dehors au contact des éléments. Je dis ça parce qu'on a déjà fait des ramassages sous la pluie par exemple, et on s'est rendu compte qu'on ne fondait pas. Avec un caouet et des bottes, on s'en sortait, on survivait une heure et demie dehors, et c'est un truc dont on a un peu perdu l'habitude quand même. Donc pour te répondre sur l'équipement, évidemment selon la saison, avoir des vêtements adaptés, s'il fait hyper chaud, se protéger la tête, s'il pleut, les ramassages sont maintenus, donc cape de pluie, caouet. S'il fait froid, avoir des gants, parce que ramasser les déchets avec une pince quand il fait 5 degrés, on peut vite avoir mal aux doigts. Donc adapter aux températures. Les bottes, c'est super, parce qu'on peut quand même aller plus loin sur la berge, ou en tout cas carrément dans l'eau peu profonde, ce qui nous permet d'atteindre ton déchet préféré, la lingette, beaucoup plus facilement. Donc bottes. On a pas mal de gens et de plus en plus qui s'équipent et qui viennent avec leurs pinces personnelles. Donc ça c'est assez chouette parce que ça permet aussi de les emmener dans les balades plus individuelles et d'avoir plus de pinces à disposition, de l'eau. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis des vêtements qui craignent pas, parce que des fois on peut tirer des trucs un peu sales, tout ça. Et effectivement, Thierry, tu me fais signe, des gants c'est bien aussi pour pas se blesser, aller ramasser des trucs un peu cracra, un peu douteux, des gants c'est bien.
Ok. Eh ben merci Claire pour cette interview.
Avec grand plaisir.
Donc on va rappeler, donc sur Instagram, sur Facebook, Nettoyons la Loire, et tu vas nous donner l'adresse mail.
Alors l'adresse mail, elle est très simple, c'est nettoyonslaloire@mailo.com.
Très bien, merci beaucoup.
Avec grand plaisir, merci à vous pour vos questions.